Vous écoutez RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité, la révolution des exosquelettes. Bonjour, Elena Sander.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue, vous êtes journaliste à Science et Avenir et co-réalisatrice de la série doc Humain 3.0 qui est présentée le 8 juin au Grand Palais. C'est dans le cadre de l'exposition Artistes et Robots. Bon, on pose la question qui fâche tout de suite, c'est quoi un exosquelette ? Vous avez six mots pour le décrire. Je plaisante.
C'est une sorte d'armure articulée qui va augmenter les performances de l'humain.
Donc ça ressemble à une sorte de... Bah oui, c'est ça, une armure. Est-ce que c'est un robot ?
Alors, non, puisque c'est vraiment comme une... Vous voyez, on emprunte ce mot aux insectes. Vous voyez la carapace qu'on peut avoir chez les insectes ou chez les arthropodes. Eh bien, c'est vraiment quelque chose qui va accompagner le corps. Disons que c'est mi-homme, mi-robot.
Voilà, une bonne définition. C'est une révolution scientifique, on va vous l'expliquer. Un espoir aussi pour de nombreuses personnes handicapées. C'est déjà demain dans la curiosité.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
Vous en avez assez des donneurs de leçons, vous ne supportez plus les polémiques creuses. Mais avez-vous déjà écouté On refait le monde, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre ? Sur RTL, des points de vue tranchés et argumentés, des échanges vifs et toujours surprenants, des grandes signatures venues de tous les horizons, mais aussi de la bonne humeur et des surprises. C'est tous les soirs de 19h à 20h sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Qu'est-ce qu'un exosquelette ?
La curiosité est un vilain défaut.
C'est une sorte de combinaison mécanisée que l'on fixe sur certaines parties du corps grâce à des harnais.
RTL.
Il en existe deux types. L'exosquelette amplificateur de force. Il décuple la force musculaire et permet de porter à main nue des charges extrêmement lourdes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les exosquelettes d'assistance à l'effort. Ce système permet à une personne handicapée ou diminuée de retrouver des mouvements perdus et de l'autonomie au quotidien.
Curieuse ? Curieux ?
Préparez-vous, demain peut-être, vous aurez un squelette sur la peau.
Vous êtes chez vous sur RTL.
Alors je ne sais pas si grâce aux exosquelettes on va se transformer en... Bioman. En tout cas, c'est pas de la science-fiction. Les exosquelettes.
Vous regardiez Bioman.
Sont pas. Mais bien sûr.
Petite, bien
moi,
sûr.
J'aimais Force Bleue. On avait chacun ses préférés.
Chacun
vous, c'était quoi ?
Bah, j'étais trop vieux. Hein.
Ah, vous étiez déjà au lycée.
Non, parce que ça, j'aurais été très retardé pour regarder Bioman quand même.
Les exosquelettes sont parmi nous. C'est officiel et c'est la journaliste à Science et Avenir, Elena Sander, qui nous dévoile cette révolution. On va commencer par une info, un breaking news à Grenoble. Il y a des chercheurs il y a quelques jours qui ont présenté une grande première. Qu'ont-ils implanté dans la tête d'une personne paralysée des quatre membres ?
Ils ont implanté une puce à 64 électrodes exactement. En fait, il y en avait même deux, chargée de contrôler un exosquelette des quatre membres. C'est-à-dire qu'un tétraplégique ne peut bouger ni les bras ni les jambes. Mmh. Donc là, c'est carrément une armure qui englobe tout son corps avec 64 moteurs. Activer cette armure et l'ordre vient du cerveau normalement.
C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est
voilà.
Dingue.
C'est-à-dire que quand on pense à marcher, c'est notre cerveau qui donne
qui commande,
l'ordre,
en fait, ouais.
Qui commande aux jambes de marcher. Et bien là, comme le circuit est coupé chez ces gens-là, et bien on leur implante une puce sur le cortex moteur qui va décoder les commandes du cerveau et via un ordinateur qui va le porter dans le dos, va aller commander la marche de l'exosquelette.
Est-ce que ça a marché ? Est-ce que cette personne a pu marcher grâce à son exosquelette et grâce à cette puce ?
Alors oui, les essais sont en cours. Il a été implanté il y a exactement un an. Mais Clinatech a fait cette annonce il y a quelques jours. Et alors, il faut savoir qu'on en est vraiment au tout début. Il projette d'implanter 5 patients de la sorte.
Mais comment c'est possible ? C'est-à-dire, comment ça se prépare ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
Ils ont étudié les réactions du cerveau de cette personne.
Oui, parce qu'on a tous
pour ensuite
des...
donner les bonnes informations,
sûr,
placer les bonnes informations dans la puce, quoi, c'est
on
ça.
On a tous des cerveaux différents.
Oui.
Donc ils ont mis le patient dans des appareils d'imagerie médicale,
oui.
Et ils ont demandé au patient d'imaginer marcher ou bouger les bras. Et ils ont enregistré l'activité cérébrale de ce patient. Et ensuite, c'est comme ça qu'ils ont programmé l'algorithme dans l'ordinateur qui est capable de décoder la volonté du patient pour marcher, mais aussi bouger les bras et tourner les poignets.
Elena Sander, avec vous, on découvre vraiment ce concept d'exosquelette. Est-ce qu'un exosquelette fonctionne forcément avec une puce intégrée, collée, greffée au cerveau ?
Ah, la puce, elle est implantée dans le cerveau.
Implantée, oui.
Implantée dans le cortex.
Et ça fonctionne forcément avec ça, un exosquelette ?
Ou alors, il y en avait d'autres types
Ah non, pas du tout. Alors, il y a aussi des exosquelettes qui fonctionnent juste en lisant l'activité électrique en surface du cuir chevelu. Mais ça marche un petit peu moins bien, parce qu'on est moins près du cerveau. Donc, le signal est un petit peu plus brouillé. Mais la plupart des exosquelettes ne fonctionnent pas de la sorte. Il fonctionne sans puce, il fonctionne juste avec le mouvement du corps.
Question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'aujourd'hui on croise déjà des gens dans la rue avec des exosquelettes, peut-être un peu moins grands, un peu moins voyants ?
Alors non, d'abord parce qu'on en est au tout début. Et là, il faut bien préciser qu'on ne parle plus de tétraplégie. Dans ces cas-là, on parle de paraplégie, c'est-à-dire des personnes qui sont paralysées uniquement des jambes. Donc, il leur reste les bras encore. Donc, pour ces gens-là, on a développé des exosquelettes de jambes. Donc c'est vraiment des gouttières dans lesquelles on insère les membres inférieurs. On a une sorte de harnais qui porte aussi, pour certains, un ordinateur, parce qu'il faut toujours des commandes pour cette machine. Et les personnes peuvent se mettre debout, se verticaliser, mais là, ils sont obligés de s'appuyer sur des béquilles. Et à ce moment-là, alors, il y a plusieurs modèles qui existent. Certains modèles sont commandés via les béquilles, c'est-à-dire en appuyant sur les béquilles. D'autres modèles aussi sont commandés par le mouvement des hanches. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une commande qui vienne.
Mais en fait, c'est hyper lourd ce que vous nous décrivez là. Comment on peut se déplacer avec ça ?
Alors, c'est assez lourd. Alors, ils ne font pas un 100 mètres. Hein. Il faut les voir se déplacer. C'est lent, c'est fastidieux.
Mais c'est déjà un progrès énorme.
C'est déjà un progrès énorme. Et alors, à la question, est-ce qu'on en verra dans la rue, reste le prix. Et le prix, ça va de 60 000 à 80 000 euros pièce. Donc, qui peut se payer ça pour...
Alors, peut-être les entreprises, parce que les exosquelettes vont peut-être nous permettre de travailler plus facilement ou en tout cas de soulager quelques tâches très difficiles. À tout de suite, les curieux, on continue de découvrir cette histoire, cette révolution technologique sur RTL.
Faire marcher un paraplégique, réactiver un bras inerte, remplacer une jambe perdue. Aujourd'hui, la science rejoint la fiction.
La curiosité est un vilain défaut.
Ses organes, ses neurones, son cerveau. Réparer l'homme, c'est plonger comme jamais on ne l'a fait au plus profond de son corps.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un nouvel homme est en train de naître. L'humain 3.0.
On est bien entre curieux sur RTL.
L'humain 3.0, extrait d'un documentaire de notre invitée, la journaliste scientifique Elena Sander, documentaire qu'on peut voir au Grand Palais, c'est ça, dans le cadre d'une exposition en ce moment, prochaine diffusion, je crois que c'est le 8 juin. Vous nous faites découvrir l'un des aspects de cet humain 3.0, l'exosquelette. Alors, on a vu que ça pouvait changer la vie des personnes handicapées. C'est aussi une révolution dans le monde de l'entreprise. Quel métier pourrait bénéficier des services, si j'ose dire, d'un exosquelette ?
Mais alors, on peut imaginer déjà dans les travaux publics, par exemple, il y a la société Colas qui a un râteau robotisé. Alors, ça n'a l'air comme ça de rien, mais c'est très important. Vous savez, les ouvriers qui font les routes et qui doivent pousser et tirer le bitume, c'est très, très, très fatigant et très lourd. Et bien là, ils ont inventé un grand râteau qui se fixe, qui est complètement motorisé et qui se fixe aussi par un corset au corps de l'ouvrier et qui leur permet de pousser et tirer jusqu'à 50 kilos. Donc c'est complètement surhumain.
Quand on sait que la première cause de maladie professionnelle en France, c'est les troubles musculo-squelettiques, ça veut dire que ça peut révolutionner tous les métiers des gens qui travaillent dans les usines.
Voilà, il y a un autre robot qui s'appelle le RoboMate, qui est un robot européen. Alors lui, c'est toujours un corset qui prend le dos et qui soulage les bras. Donc on peut porter à bout de bras 15 kilos, sans fatigue.
Sans faire d'effort. Et sans risquer de se faire mal au dos.
Voilà.
Et on pourrait multiplier comme ça les exemples, parce que des tâches répétitives ou des tâches de force, il y en a énormément. Est-ce que c'est forcément un progrès ?
Alors là où il faut faire attention, c'est qu'il y a une étude qui est parue il y a quelques jours de l'université de l'Ohio qui a montré qu'on soulageait les bras avec ce genre d'exosquelette, mais on comprimait d'autres zones du dos. Donc attention à ne pas penser que c'est la solution à toute tâche pénible.
Et est-ce que c'est compliqué à maîtriser aussi? Parce que d'un seul coup, on se retrouve avec une force démultipliée. Est-ce qu'on peut se blesser avec un exosquelette?
Alors, se blesser, je ne pense pas, parce qu'ils sont quand même bien conçus. En revanche, le mouvement est entravé et peut être stéréotypé. Et vraiment, imaginez que c'est comme si vous dansiez avec un très mauvais danseur. C'est-à-dire que vous essayez de faire un mouvement, mais le robot, il ne vous suit pas forcément. Et peut-être qu'il va aller faire un mouvement que vous n'attendiez pas. Donc, ça peut être un pénible à la longue.
On découvre dans votre magazine Science et Avenir que la SNCF aussi est en train de travailler sur un projet d'exosquelette. Il devrait ressembler à quoi et servir à qui?
Alors, ils appellent ça le couteau suisse.
C'est bien,
et
oui.
Ça a été conçu par ExoSanté. Alors, c'est un exosquelette modulaire qui va pouvoir servir à beaucoup de choses et notamment aux tâches qui nécessitent d'avoir les bras au-dessus de la tête. Parce que travailler vraiment avec les bras au-dessus de la tête, c'est très, très, très
c'est
fatigant.
Quand on travaille, je ne sais pas à quel moment on travaille...
Sous une motrice à réparer,
motrice, par exemple,
ça pourrait servir dans les garages aussi, les garages auto.
Absolument.
Ça. Ouais. Donc on comprend bien que dans plein de secteurs industriels, on travaille déjà où on pense à ces exosquelettes. Pour bien comprendre, c'est des robots, mais en même temps, ça demande qu'il y ait un homme dedans. C'est ça, hein, le principe de base, c'est ça.
Ah oui, parce que il y a beaucoup de tâches que seul un humain peut faire, mais pour soulager aussi, pour augmenter ses performances. La question se pose aussi de savoir si on n'est pas en train de créer des super ouvriers, des super opérateurs et opératrices, à qui on demande toujours plus, toujours plus, toujours plus.
Qu'on pourrait remplacer aussi par des robots, parce que c'est un peu la concurrence finalement, les robots dans le monde du travail.
Alors peut-être, mais voyez, typiquement dans la société Colas, qui a son super râteau robotisé, c'est un mouvement que seul l'homme peut faire.
Voilà, on n'a pas encore trouvé le robot capable de remplacer l'homme. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, sur les champs de bataille, peut-être que c'est une solution, les robots, mais il y a aussi déjà des exosquelettes qui accroissent les performances, la force des militaires. On vous raconte cet aspect de l'histoire dans un instant sur RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Les exosquelettes, retenez bien ce nom, ils feront bientôt partie de notre quotidien, ces armures qui nous aideront, pour certains, dans nos efforts au travail, pour aider aussi nos vieux corps, pour nous rééduquer. C'est ce nouveau monde que nous fait découvrir la journaliste scientifique de Science et Avenir, Elena Sander. Dans quelle mesure l'exosquelette pourra, ou peut déjà, être utile dans l'armée pour les militaires ?
On imagine facilement un super soldat équipé d'une armure comme Iron Man, qui permette de courir plus longtemps, porter plus lourd, etc.
Donc on imagine ou ça existe déjà?
En fait, ça existe. Ouais. Ils travaillent, notamment Lockheed Martin travaille sur le projet depuis 10 ans et ils ont sorti un modèle qui s'appelle Hulk. Ça ne s'invente pas.
C'est drôle, ça veut dire quoi, Hulk? Human Universal Load Carrier.
Voilà, c'est surtout dédié à porter des charges très lourdes. Alors, c'est un ensemble motorisé que le super soldat revêt et il peut porter comme ça jusqu'à 90 kilos de matériel en plus. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils se sont aperçus finalement que ça entravait le soldat plutôt qu'autre chose et ça le fatiguait. Et alors, ils sont revenus un peu sur Hulk et ont décidé de faire une version beaucoup plus light qui s'appelle Onyx et qui soulage seulement les jambes. Mmh. Et ça va être testé sur le terrain dès le mois de décembre.
Oui, parce que ça peut aussi ralentir un soldat et le transformer en cible facile, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est cet équilibre à trouver pour
un militaire.
Dans la
mesure où ça peut entraver ses mouvements, j'imagine qu'un soldat sur le terrain doit être quand même agile. Donc, peut-être que ce n'est pas encore tout à fait au point.
Est-ce que ces exosquelettes aussi peuvent révolutionner le monde du sport en équipant des athlètes qui pourront jouer à Roland-Garros ou dans d'autres disciplines?
Mais dans ces cas-là, il faudrait voir avec les instances de contrôle dopage.
Pour l'instant, ça ne serait pas autorisé.
Ou dans les Jeux paralympiques, tout simplement.
Voilà. Alors, en revanche, il existe depuis 2016, a été lancé le cibathlon par l'école polytechnique de Zurich. Donc, c'est une compétition internationale de tous les sportifs handicapés qui utilisent des assistances robotiques. Et il y a eu, donc en 2016 et la prochaine en 2020, il y a eu la première course d'exosquelettes.
Et alors, ça c'était concluant? Quel genre d'épreuves, en fait?
Faites-nous rêver, ils couraient plus vite que nous.
Les épreuves sont plus dirigées vers la vie quotidienne, c'est-à-dire savoir monter un escalier, parce que ce n'est pas une mince affaire quand on a un exosquelette, ouvrir une porte, une course d'obstacles, mais ce qui permet à tous les laboratoires de recherche de s'améliorer, de devenir de plus en plus performants.
Vous avez commencé, on a commencé par l'exemple de Grenoble, donc cette puce dans le cerveau pour une personne handicapée. Donc ça, là, c'est une entreprise française. Est-ce que les Français sont bien placés dans cette course à l'innovation en matière d'exosquelette?
Alors, les Français ont présenté, il y a quelques mois, un dispositif qui s'appelle Atalante et qui est le premier exosquelette pour paraplégique sans béquille. Ce qui est une révolution et ce que tout le monde attend. Ce qui va permettre à la personne paraplégique une véritable marche bipède, c'est-à-dire sans béquille. Ce n'est pas une mince affaire parce que l'équilibre de la personne est extrêmement délicat à trouver. Et normalement, il devrait faire son apparition dans des centres de rééducation dès cette année.
Merci beaucoup, Elena Sander. Le Science et Avenir est à découvrir en kiosque. Et puis aussi, cette série documentaire Humain 3.0 à découvrir le 8 juin, c'est ça ? Au Grand Palais, à Paris. Merci beaucoup.
Merci.
Vous écoutez RTL.